Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzane. Bienvenue dans un nouveau podcast. Le thème aujourd'hui, l'hostilité à l'entreprise, une plaie française. Alors parmi les nombreuses plaies dont souffre notre pays, l'hostilité au monde de l'entreprise de la clérisie, c'est-à-dire le corps informel constitué des intellectuels, enseignants, artistes et journalistes qui définissent la pensée dominante, figure en bonne place. Cette hostilité prend des formes différentes, mais elle est l'une des sources de la faiblesse de notre économie. Alors, deux articles du journal Libération à propos de l'entreprise Doctolib, paru en juillet 2021, l'illustrent parfaitement. Doctolib est une start-up française créée en 2013 qui permet aux médecins de gérer leurs rendez-vous. Elle a connu un succès grandissant et a surgi sur le devant de la scène début 2021 lorsque l'État lui a confié la prise de rendez-vous dans le cadre de la campagne vaccinale contre la Covid-19. Alors, un défi de taille, avec deux doses par personne dans un délai précis, soit environ 80 millions de rendez-vous en moins d'un an à organiser. Un défi donc également logistique et technique colossal, que l'entreprise a relevé haut la main et qui a contribué au succès de l'opération de vaccination française, qui avait pourtant connu des débuts difficiles. Il y a vraiment de quoi être fier que ce succès soit dû à une entreprise française. Et pourtant, la chose ne plaît pas du tout à Libération. Dans deux articles au Vitriol, publiés donc en juillet 2021, l'organe officiel de la clérisie française refuse ce qu'elle appelle la version angélique du Monde, c'est-à-dire l'histoire d'une start-up française devenue succès national. Elle estime au contraire que, je cite, « Doctolib bénéficie d'un monopole inquiétant qui s'est construit avec l'argent de nos impôts et grâce à une générosité déconcertante de la régulation » couplé à un silence assourdissant de l'autorité de la concurrence. Bigre. La réussite de Doctolib est balayée d'un revers de manche. Elle n'intéresse tout simplement pas le journal. La souligner serait faire preuve de naïveté. Alors, c'est regrettable parce que s'il y a bien une chose qui a marqué la pandémie, c'est la réussite des entreprises, notamment françaises. Non seulement la plupart a réussi à fonctionner dans des conditions extrêmement difficiles, continuant ainsi à produire de la richesse et à préserver l'emploi, certaines d'entre elles ont même joué un rôle tout à fait essentiel. Alors on se rappelle comment la pénurie de masques a été résolue en 2 semaines par la grande distribution, dès lors qu'elle a été autorisée par l'État de se saisir du problème. Et comment cette même grande distribution a nourri la France alors que tout le monde craignait des pénuries. Pour reprendre une expression souvent entendue à cette occasion, et qui elle-même d'ailleurs traduit une certaine condescendance à l'égard des entreprises, je cite « les entreprises n'ont pas démérité ». Effectivement. Alors, l'attitude de Libération est regrettable également parce que le progrès apporté au monde de la santé est réel. Doctolib gagne sa vie en simplifiant la vie des praticiens et en améliorant leur productivité, en simplifiant également la vie des patients, ce qui est crucial quand on sait combien les services médicaux sont parfois surchargés. Autrement dit, tout le monde est gagnant. Et pourtant, la seule chose que l'article retient, c'est que Doctolib est désormais dans une position dominante, voire de monopole du fait de son succès. Considérant que la santé doit être, je cite, un bien commun, le monopole d'une entreprise privée semble absolument inacceptable au journal. Alors deux choses à ce sujet. La première est qu'effectivement, les monopoles sont problématiques dans l'économie. Mais leur émergence dans une industrie jeune est un trait historique établi. Au début de l'industrie, une multitude de start-up naissent, puis certaines réussissent et éliminent les autres. Et pour finir, il ne reste que quelques acteurs, on parle d'un oligopole, un petit nombre d'acteurs, voire un seul, et là c'est un monopole. Mais la société a depuis longtemps trouvé la parade. Si un monopole est constitué, la loi permet de le défaire. Le cas d'école est évidemment Standard Oil, à la fin du 19e siècle aux États-Unis, qui a été démantelé de façon retentissante en 1911. Et donc le supposé monopole de Doctolib n'est pas un vrai problème, on pourra y remédier si besoin, tandis que la réussite de l'entreprise sert l'ensemble de la société. C'est ce que l'économiste Deirdre McCloskey appelle le deal bourgeois. Alors c'est quoi le deal bourgeois? Eh bien vers la fin du XVIIIe siècle, la société a dit en substance aux bourgeois, aux marchands, on vous laisse vous enrichir parce que nous en profiterons amplement. Un peu plus tard, la société a ajouté, nous ne vous laisserons pas établir de monopole. Le génie ici réside dans l'ordre. On laisse d'abord émerger, puis on régule, si nécessaire, mais a posteriori. Empêcher a priori l'émergence d'un monopole, comme semble le vouloir Libération, empêcherait le progrès et donc nous rendrait pauvres. Et c'est d'ailleurs ce qui a caractérisé le monde avant la révolution industrielle. Et donc le fameux deal bourgeois est un bon deal, il nous a rendus riches et la société y a gagné dans son ensemble. La deuxième chose qu'on peut dire concerne la santé comme un bien commun. Cette expression ne veut rien dire, si ce n'est dans l'esprit de l'article, qui semble supposer que seul un service public pourrait servir le bien commun. Alors 200 ans de révolution industrielle plus une pandémie ont démontré l'inverse. L'entreprise privée a servi et continue de servir le bien commun de multiples façons. Elle n'est pas la seule à le faire, mais elle le fait. Et elle ne le fait pas seulement en payant des impôts. Alors, nous l'avons vu avec les masques et la grande distribution, mais on l'a pu le voir aussi avec les vaccins qui nous sauvent, qui sont des purs produits de ce système capitaliste que la clérisie déteste. Ainsi, au lieu de célébrer l'excellence française dans un domaine, les hautes technologies, où elle n'est pas si fréquente, l'article dénonce donc le profit et le monopole financé par, je cite, « nos impôts ». Alors, la clérisie se moque régulièrement des projets ambitieux, notamment des projets spatiaux d'Elon Musk, qu'elle voit comme des caprices de milliardaires, plutôt que comme l'incarnation de l'esprit humain de conquête. Et elle oublie que toutes les révolutions, y compris celles qu'elle célèbre aujourd'hui, ont à l'origine été vues comme des caprices ou des aberrations. Elle accuse la grande distribution de profiter de la crise au lieu de célébrer l'incroyable efficacité d'un système qui, encore une fois, a permis de nourrir la France et de lui trouver des masques au plus fort de la crise au printemps 2020. En balayant tout élan et toute réussite pour y trouver une faute morale, la clérisie développe une rhétorique anti-progrès qui, au final, est réactionnaire. Alors, cette rhétorique anti-progrès a des conséquences très concrètes car elle façonne tout un système de valeurs. Alors façonner les valeurs au travers de la parole, de l'écrit, de l'enseignement, c'est après tout précisément le rôle de la clérisie et ce sont ces valeurs qui guident le monde. Dans son étude sur les causes de la révolution industrielle, donc McCloskey, que je citais tout à l'heure, met ainsi en avant un changement dans les valeurs qui apparaît à la fin du XVIe siècle à peu près. Progressivement, l'ascension sociale par la réussite individuelle, industrielle ou commerciale, a commencé à être vu positivement. Et donc un monde qui parle positivement des entrepreneurs est un monde dans lequel ceux-ci peuvent fleurir parce qu'ils peuvent acquérir une dignité au sein de la société qui était impossible auparavant. La dignité qu'accorde une société est évidemment fondamentale dans ses conséquences en ce qu'elle ouvre ou au contraire ferme des possibilités. Alors en l'occurrence, la dignité bourgeoise a été au début largement célébrée par les intellectuels, et notamment les intellectuels français. Montesquieu parlait ainsi du doux commerce. Et en 1734, Voltaire rédige sa fameuse lettre philosophique, numéro 10, où il stigmatise le dégoût des aristocrates français pour le commerce. Et il écrit, je cite, « Je ne sais pourtant lequel est le plus utile à un État, ou un seigneur bien poudré, qui sait précisément à quelle heure le roi se lève, à quelle heure il se couche, et qui se donne des airs de grandeur en jouant le rôle d'esclave dans l'antichambre d'un ministre, ou un négociant qui enrichit son pays, donne de son cabinet des ordres à Surat et au Caire, et contribue au bonheur du monde. » Mais à partir de 1848, la clérisie redevient hostile aux bourgeois. L'art, la littérature, et aujourd'hui les films et les chansons, ne parlent des bourgeois, quand ils en parlent, ce qui est très rare, que de façon péjorative et caricaturale. Alors, Jacques Brel, pourtant fils d'industriel, étant un exemple parmi tant d'autres, avec sa fameuse chanson qui exude la méchanceté. Alors, j'en fais aussi l'expérience des effets de cette rhétorique anti-progrès dans mes enseignements. Que je parle d'entrepreneuriat, on me répond égoïsme, sauf s'il s'agit d'entrepreneuriat social, qui semble être le seul acceptable pour la clérisie. Que je parle de robotisation, on me répond chômage, biotechnologie, on me répond Frankenstein, intelligence artificielle, on me répond Skynet, croissance économique, on me répond pollution, etc. etc. La rhétorique d'hostilité à l'entreprise et au progrès est désormais bien ancrée et elle nous enferme dans une vision pessimiste du monde, selon laquelle nous ne serions capables de résoudre les problèmes auxquels nous faisons face que par un retour à une frugalité médiévale. Elle nous fait regarder vers le passé plutôt que d'avoir envie de construire l'avenir. Et nous la payons très cher, et nous la paierons encore plus cher à l'avenir. Les industries sur lesquelles notre pays a construit sa prospérité, et donc son fameux modèle social, sont largement matures. Et nous sommes absents de toutes celles qui sont en train d'émerger. La clérésie s'en fiche parce que ses revenus sont très largement indépendants du monde du marché, hein, elle est très largement subventionnée directement ou indirectement. Rappelons d'ailleurs au passage que Libération reçoit plus de 4 millions d'euros de subventions via nos impôts par an. Ce sont les classes moyennes, les ouvriers, les indépendants et plus généralement les ménages modestes qui, eux, vivent dans le marché, qui payent la note en coût de vie supérieur et en emploi et en opportunités manquants. Le scandale de l'affichage de vertu par la clérésie est là, mais qui s'en soucie ? Et donc recréer une rhétorique positive sur l'entreprise et l'innovation et sur le progrès en général n'est donc pas seulement un impératif économique pour notre pays, c'est devenu aussi un impératif social et, osons le mot, moral. Merci de votre attention, vous pourrez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzane.com. À bientôt !